Organise ta collection, suis l'évolution des prix et explore des cartes de 1951 au Star d'aujourd'hui. Économise 10$ sur l'abonnement annuel avec le code BPM10. Rends-toi sur Mintora.com et transforme ta collection en passion intelligente. Mintora, ta collection, ta vraie valeur.
On coupe l'aspirateur. On coupe les jeux vidéo. La télé. La tondeuse du voisin. On ajoute un ruisseau. Des écureuils qui se courent après. On ajoute des souliers dans la garnotte. Et des enfants heureux. Ah, bouger en plein air, ça coupe le chaos et ça ajoute du bonheur. Un message du gouvernement du Québec.
Ce vendredi, les maîtres de l'univers débarquent.
Le glaive, il me quittera pour rentrer chez moi.
Mettez de l'action dans votre été.
Accroche-toi, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive.
Et voyez l'ascension.
Prenez le glaive.
Tu les protégerais.
De Musclor.
Je détiens la force toute puissante.
Qu'est-ce que ça fait d'être un puissant guerrier?
Vraiment bien.
Ne manquez pas les maîtres de l'univers. Seulement au cinéma, dès vendredi.
Cet été, Expérience Mata transforme le premier vendredi de chaque mois en soirée inoubliable. Mata en spectacle. C'est un grand artiste québécois sur scène. Le 5 juin, vivez un hommage à Metallica qui va faire trembler la Naudière. En juillet, place à la douce Ariane Simard. En août, le grand Kevin Parent. Des soirées à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas les combiner avec votre journée golf? Consultez la programmation sur expériencemata.ca.
À Montréal et toujours live sur le YouTube de BPM.
100% sport.
Dans 60 minutes, le show de sport numéro 1 au Canada. Le show du peuple. Georges et Gonzo. Les enfants terribles de la radio. Lara Gonzalez. De retour pour 3 heures de délire sportif. 100% sport. Plus de fun. Toujours la radio de sport numéro 1 au Canada.
91.9
BPM Sport.
Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs.
100%!
Le premier puck drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde.
Salut, bienvenue dans 100% Max, édition du 1er juin. Ouais, les pieds dans le mois de juin sans le Canadien Montréal qui malheureusement a remis un terme à sa saison vendredi du côté de Raleigh en Caroline. Ali Berman, salut.
Salut Max, comment ça va?
On va super bien. Écoute, pas surpris du résultat. Non. Vraiment pas. On est en mode bilan aujourd'hui. On va retourner d'ailleurs au podium dans les prochaines minutes dès que les joueurs vont se présenter. Mais bravo. Bravo pour la belle saison. Surtout merci pour la belle saison. C'est un plaisir de suivre ça assidûment. T'sais, vous le savez à quel point on est collé sur l'actualité du Canadien Montréal. Puis ça a vraiment fait du bien. C'était le fun. C'était le fun pour nous autres à la radio.
Vraiment.
Tu sais, pour notre job de tous les jours.
Ça rend ça pas mal plus agréable.
Ah, mais
avoir une équipe qui est excitante, avoir joué des gars qui sont le fun à suivre, qui sont souriants, qui sont chaleureux.
Ouais.
On pouvait pas vraiment demander mieux. Nous, puis les partisans aussi.
Oui, puis tu sais, je l'ai vécu aussi en tant que partisan avec mon gars, avec ma famille. On a participé aux événements. Quand j'enlève mon chapeau de commentateur sportif, d'animateur de radio sportive, je vais avec Milan comme papa qui amène un garçon au Centre Bell voir le hockey, voir ses idoles. On a tellement vécu de beaux moments cette saison.
Oui.
C'était tellement le fun. Tu sais, le 50e de Caulfield, je suis allé avec ma blonde dans les estrades. Le fun qu'on a eu de vivre ça. On a assisté à des affaires incroyables cette saison.
Absolument.
Hughes et Gorton sortent du podium. Ça a duré tout près d'une heure leur point de presse. Ils ont abordé tellement d'affaires là-dedans. Honnêtement, il y a vraiment, vraiment plein de choses. On a parlé de David Reinbacher, on a parlé de Kirby Dach, on a parlé de Samuel Montembeault, on a parlé du contrat Ivan Demidov. On va y aller sujet par sujet.
Ouais.
Moi, ce que je retiens, par contre, c'est à quel point ils ont été transparents et à quel point ils sont exacts. À mes yeux, à moi, là, puis tu me diras ce que tu en penses, ils ont exactement la lecture de leur équipe de l'état actuel.
Ouais.
Tu sais, il y a pas d'affaire de Bergevin, notre défensive s'est grandement améliorée.
Non. Ils ont même été honnêtes. on le sait que défensivement et niveau robustesse, on a du travail à faire. Mais t'as raison, Max, qui ont l'air d'avoir une vision très, très juste de leur équipe. Ils savent que ça a été toute une saison. Tout le monde est agréablement surpris par ce qui s'est passé, mais ils sont pas aveuglés par les résultats non plus. Autant Gorton et Hughes savent que c'est une équipe qui est pas finale, qui a encore des points à améliorer et qui vont les adresser pendant la saison morte sans trop non plus sacrifier le futur. Pour moi, ça a été un des points intéressants de ce bilan, c'est qu'ils ont dit on va pas tout miser sur le court terme, on va pas faire un all-in pour être prétendant à la coupe l'an prochain, mais en faisant ça, sacrifier le long terme. Ils disent, ils continuent de respecter leur plan, c'est-à-dire d'être une équipe qui est compétitive pendant des années. Ça, pour moi, c'est encourageant.
Tu sais, dans les citations, notamment, là, Kent Hughes a dit, il faut faire des ajustements, on n'est pas la meilleure équipe défensivement. Mm-hmm. Bon, parfait. Fait que prenons l'alignement comme il est présentement, ça prend un sixième défenseur.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses, pour des gars comme Struble, pour des gars comme Jack High? Est-ce qu'il y a d'autres gars qui pourraient bouger sur la brigade défensive? Une des grandes faiblesses du Canadien, je trouve personnellement, puisque j'aimerais voir cet été, c'est d'ajouter un partenaire à Alain Hudson.
Ouais.
Tu sais, Quinn Hughes à Brock Faber, Kel McCarr à Devin Taves, à un moment donné... Lane Hudson ne pourra pas avoir Jaden Struble toute sa carrière.
Non, ça pourra pas être ça. Un droitier avec lequel Lane Hudson peut jouer beaucoup de minutes, t'as totalement raison. Ça va être un des points à améliorer pendant la saison morte parce qu'on sentait que ben il y avait peut-être des gars qui étaient pas nécessairement dans leur bonne chaise. Carrier connu des séries exceptionnelles. Mais dans un monde idéal, Carrier joue pas 22 minutes par match, il joue plus
c'est peut-être lui ton sixième
paire.
Défenseur. T'sais.
Exactement. Madison, c'est exceptionnel ce que fait. Est-ce que tu veux que Mike Madison joue 25 minutes par match? Il est peut-être mieux quand il joue 21-22. Et à travers tout ça, c'est amélioré d'un point de vue défensif. C'est pas seulement une responsabilité des joueurs. Et ils l'ont dit, même les coachs aussi, ils peuvent s'améliorer puis ils peuvent faire un meilleur travail. Donc, il y a aussi dans la structure défensive de l'équipe, dans l'approche, dans le système de jeu, ben, il y a peut-être des correctifs à apporter aussi. Et le fait d'affronter une équipe comme les Hurricanes, qui est le Canadien, c'est un petit peu comme les Hurricanes il y a 5 ans, là.
Oh,
on est arrivé en finale de l'Est, on s'est planté, mais on a appris de nos erreurs. Et c'est comme ça qu'on est réussi à venir ben, là, jusqu'à être en finale de la Coupe. Ça commence demain contre Vegas.
Ah, puis j'ai très, très hâte de voir cette série-là. D'ailleurs, ça va être très intéressant. On a parlé d'Oliver Kapanen. Le fait que Kapanen n'ait pas joué, ça change pas notre point de vue. Il n'était pas habitué au calendrier de la Ligue nationale de hockey. On voyait de la fatigue mentale et physique en fin de saison. Oui, c'est normal. Rendu là, c'est normal. Mais on a la réponse. C'est pas le deuxième centre recherché par le Canadien Montréal. C'est pas ça qu'on a de besoin présentement. Puis si tu descends dans l'organigramme, ben là, t'as Evans puis t'as Philippe Dano.
C'est ça.
Fait que tu sais, où est la place d'Oliver Kapanen dans cet alignement-là?
Ben, c'est ça l'affaire. Parce que si tu te rappelles au bilan de mi-saison de Kent Hughes ou autour de la date limite des transactions, je me rappelle pas c'était lequel, il avait dit qu'Oliver Kapanen a le potentiel d'être le deuxième centre de l'avenir de l'équipe. Sans le jeter en dessous du bus. Ben, il a quand même avoué que c'est ça. T'sais, physiquement, clairement, il a frappé un mur et tout. Et par rapport au deuxième centre, Kent Hughes et Jeff Gorton n'ont pas voulu se peinturer dans un coin non plus parce que tu peux pas débarquer dans le bilan puis dire ça nous prend absolument un deuxième centre. Sinon, l'an prochain, ça va pas bien aller. Puis là, tu débarques au tournoi de golf puis tu l'as pas eu ton deuxième centre finalement. Mais on le sent qu'ils vont être agressifs. Ils le sont chaque été. Noah Dobson, Kirby Dach, Alex Newhook. À chaque été, le Canadien a essayé de faire des grosses acquisitions. Ça va encore être le cas dans les prochaines semaines.
Puis au moment où tu fais ça, généralement, où tu fais ces annonces-là à la mi-saison, c'est que tu peux pas dévaluer un gars non plus en pleine télé alors que tu te bats pour une place en série de fin de saison où tu es vraiment dans une bonne passe. Tu as tout le temps de préserver un peu l'orgueil des gars. Là, t'es à la fin de la saison, on recommence, on repart le tape. Là, c'est plus grave. Là, Montembeau, Gallagher, Laine, tout ça. Là, il faut que tu dises ce que t'as à dire.
Mm-hmm.
D'ailleurs, on en a parlé de Brandon Gallagher. On a posé des questions sur la situation de Brandon Gallagher. Puis c'est Simon-Olivier Lorange qui a posé une question aux deux à Jeff Gorton, puis à Kent Hughes. Puis il a mis Montembeau, Gallagher et Laine dans la même question.
Ouais.
Mais en gros... C'est trois dossiers complètement différents, à commencer par Gallagher. T'sais, Kent Hughes a dit trois fois, faut être reconnaissant de ce qu'il a fait pour l'organisation du Canadien Montréal. Faut être reconnaissant Il l'a dit trois fois dans deux langues différentes. Fait qu'on sent qu'il a vraiment à cœur le bonheur de Brandon Gallagher, mais on sent aussi que c'est terminé à Montréal pour Brandon Gallagher.
Ouais.
Ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils vont se jaser aujourd'hui. Il va avoir son médical aujourd'hui pour voir... Lui, qu'est-ce qu'il veut, première des choses?
Parce qu'un gars comme Brandon Gallagher, tu dois bien le traiter. Là. Il a tellement donné beaucoup à l'organisation. il risque de pas revenir avec l'équipe l'an prochain. Il faut que tu fasses ça dans de bonnes circonstances.
Avec
tu le traites avec classe. Que ce soit via un rachat ou si tu es pour l'échanger, tu l'échanges pas n'importe où, on s'entend là. Tu vas pas l'envoyer à une équipe où il va détester ça. Puis
est-ce qu'il va aller jouer chez lui à Vancouver, mettons?
Je pense que ça aurait énormément de sens. T'sais, c'est une équipe qui aurait besoin de ça. Une équipe qui est en reconstruction, un vétéran comme Gallagher, il vient de là. Puis t'sais, par rapport aux autres que tu as mentionnés, notamment Patrick Laine, ça, c'était une drôle de situation parce que ce que Kent Hughes a dit, c'est que Laine, il sentait que c'était un petit peu injuste de trop le forcer à revenir au jeu parce qu'évidemment, il n'avait pas la forme physique pour être capable d'avoir le même niveau que le groupe.
Ouais.
En même temps, comment ça se fait d'abord qu'il est resté sur la liste des blessés tout au long de la saison?
Ouais.
C'est resté quand même un petit peu nébuleux cette affaire-là, mais il a été très positif, très élogieux à l'endroit du caractère de Laine, qui n'a pas fait la baboune.
Zéro.
Super bon gars dans le vestiaire, a toujours assisté aux événements. Mais on le sent, même à travers Kent Hughes, que il y a quelque chose avec Patrick Laine qu'on dit pas ou qu'on peut pas dire ou peu importe qui plane au-dessus de toute cette situation-là.
Ah, puis tu sais, il y a une phrase que Kent Hughes a dit sur Patrick Laine, ça confirme que vous le verrez pas en septembre à Montréal. Je serai jamais inquiet de donner une recommandation pour Patrick Laine.
Voilà.
C'est terminé.
C'est terminé.
Ça, c'est terminé. Ils vont le passer à quelqu'un ou à peu près. Puis tu sais, Laine a rien coûté. Tu vas l'échanger pour rien. Dans tout ça, t'auras perdu Jordan Harris. C'est pas...
C'est ça. Il va signer peut-être quelque part cet été. On verra. Samuel Montembeau aussi, qui est un petit peu dans le même bateau.
Ouais.
Ça a été intéressant, ça, parce qu'il a avoué que au deuxième rappel de Jacob Fowler, après le voyage en Californie, qui s'est vraiment pas bien passé pour le Canadien, il s'est assis avec Samuel Montembeau pour y expliquer la décision, pour lui dire que, regarde, on prend cette chance-là, on y va avec Jacob et avec Jakub pour le restant de la saison, puis, tu sais, garde la tête haute, reste en forme, ce qui, ben, on peut peut-être lire entre les lignes que Samuel Montembeau, est-ce qu'il était vraiment arrivé en forme au camp d'entraînement, tout ça. Si on lit entre les lignes, ben, il y a peut-être un petit message qui a été envoyé là. Et encore une fois, il a dit que même si on le voulait pas, on s'est retrouvé dans une situation à trois gardiens. Et comme on le répète sans cesse depuis qu'on est arrivé à la barre du Canadien, un ménage à trois devant le filet, c'est pas souhaitable. Mais je sais pas ce qui se passe, on se retrouve tout le temps dans cette situation-là.
Ouais.
Mais il a pas dit ouvertement « Montembeau reviendra pas ». Évidemment, tu peux pas vraiment
non,
dire
non,
ça.
Tu peux pas dire ça, sauf que la situation, on la connaît tous, là, c'est terminé. Tu peux dire, il y a aucun scénario dans lequel il revient.
Non.
Chez le Canadien Montréal.
Non, non, je pense pas non plus. T'sais, clairement, il s'est fait tasser par les deux. Si Debèche, ben regarde, il a pas joué depuis quoi, février. Samuel Montembeau, pour moi, ça veut tout dire.
Mm.
Puis ça va être un autre candidat à se faire échanger. Potentiellement même racheter, mais je pense qu'il y a encore une certaine valeur. Là. Il y a des... T'sais, c'est pas un des 64... c'est quand même un des 64 meilleurs gardiens de la Ligue, Montembeau. Là. Il y a quelqu'un qui va lui donner une chance quelque part. Ce sera pas à Montréal, par contre.
Et puis mes excuses, j'avais comme en tête qu'il restait un an à Patrick Laine.
Non, c'est fini, il est agent libre le 1er juillet.
J'avais comme en tête qu'il lui restait un an, puis finalement, c'était une bonne nouvelle. J'ai vu deux textos passer, puis j'ai fait, ouais, je me mélangeais le contrat avec Gallagher, à qui lui reste des saisons, en fait une saison à son contrat.
Le contrat de Demidov aussi, ça a été abordé.
Ouais, oh oui.
Parce qu'on il avait l'air très enthousiaste, très positif, très optimiste du fait qu'ils vont être capables de s'entendre. Demidov aime ça à Montréal. Eux, évidemment, ils savent que c'est un joueur d'un immense talent. Maintenant, la question, c'est à quoi va ressembler le contrat. Il a dit qu'eux, ils préfèrent le long terme. Mais tu sais jamais si un joueur préfère le court terme ou préfère le long terme. Ça va être ça la grosse question. Est-ce qu'on va être capable de s'entendre avec lui pour 8 ans ou Demidov va chercher à maximiser sa valeur sur un contrat à plus court terme puis être capable d'en signer un autre par la suite?
Les deux scénarios sont probables. Puis tu sais, quand on regarde un peu l'historique des contrats que Dan Milstein a signé, il en a des gros des contrats. Il a, tu sais, bon, Minchukov, il a Lombardi, il a Ryan Mass, il a Alexander Georgiev. Il a quand même plusieurs joueurs dans ses contrats actifs. C'est l'agent de Nikita Kucherov, c'est l'agent de Vasilevski, c'est l'agent de Sergachev, c'est l'agent de Sorokin, de Romanov, de Barbachev, de Zadorov. Tu sais, il y en a beaucoup, là, Dan Milstein. J'ai très, très hâte de voir le ton de la négociation, mais assurément que le Canadien va... Tu sais, puis à un moment donné, c'est que tu pourras pas toujours signer tout le monde et lowballer tout le monde. Puis là, je dis lowballer, là, puis à toutes les fois que je dis lowballer, quand ça concerne Kent Hughes, c'est avec respect parce qu'il a cette capacité-là, je pense, de gérer une masse salariale et de faire comprendre à quelqu'un qu'il y a une valeur supplémentaire présentement à jouer à Montréal et à faire partie de ce groupe-là. Sauf que là, le plafond augmente d'à peu près une dizaine de millions.
Exactement. C'est pas la même chose que quand, disons, Caulfield et Slavkovski avaient signé leur contrat il y a 2-3 ans, où le plafond était flat. Là. Il augmentait à peu près pas. Ça. Là, ça change complètement la donne. Dans un monde idéal, pour moi, Demidov signe une espèce de 8x8, comme les autres, comme Otsin a fait, 8x8.6. Maintenant, quel genre de négociateur est-ce qu'il est, Ivan Demidov? Ça, c'est une autre question.
Est-ce que, parce que là, bon, Kirby Dach était dans les discussions aussi, c'était la question de Nicolas Cloutier qui l'a posé à Kent Hughes. Si Kirby Dach ne reçoit pas d'offre d'ici le 29 juin, 17h, une offre qualificative, il va devenir libre comme l'air, de 4 millions. Il dit là, on va discuter avec Sedgy, qui est John Sedgwick, qui est l'expert de la masse salariale, Kirby Dach et Martin Saint-Louis. C'est trop tôt encore pour vous dire on en est où. Moi, perso, c'est terminé.
Moi aussi.
C'est terminé. On va ailleurs, on essaie d'autres choses, on tente une autre expérience. On en est rendu là avec Kirby Dach. Puis c'est pas un gars qui... L'organisation du Canadien de Montréal ne doit absolument rien à Kirby Dach. Là, on n'est pas dans un cas de Brandon Gallagher.
Ils lui ont donné beaucoup de chance à Kirby Dach.
Oh,
puis j'ai l'impression que c'est la même cassette qui se répète à chaque année que ce que Kent Hughes a dit. C'est-à-dire que Kirby Dach, ben on le sait, c'est un joueur super talentueux, mais il est aussi malchanceux avec les blessures. T'aurais pu dire ça l'an passé, t'aurais pu dire ça l'année d'avant, puis celle d'avant. À un moment donné, il est temps qu'on passe à autre chose, là. Dans la deuxième moitié des séries, il a été invisible. Aucun point en 9 matchs. Pour moi, c'est assez. On passe à autre chose dans le cas de Kirby Dach. T'as-tu pogné sa petite flèche à l'endroit des Maple Leafs puis de leurs partisans puis tout ça?
Ouais, j'ai pogné. Garde-toi une gêne, là.
C'était intéressant quand même. T'sais, il parlait de l'étiquette, la réputation que certains joueurs peuvent avoir. Ah, c'est pas des gars des séries. On commence à voir ça là, sur les réseaux sociaux. Caulfield, c'est pas un joueur des séries. Slav, c'est pas un joueur des séries.
Ouais,
tout
mais
ça.
Là, il disait comme une ronde, ça fait pas
c'est
tout.
Ça.
Il a raison. Là.
Là, il dit, regardez ce qui s'est passé à Toronto. Certains gars étaient vus comme pas des joueurs des séries. Puis là, Mitch Marner, ben, c'est le favori pour le Conn Smythe à Vegas. Fait qu'il faut faire attention avec ces étiquettes-là, surtout que
c'est
année pour le Canadien. Là.
C'est une année, puis c'est l'ambiance que tu crées alentour d'une équipe aussi. T'sais, Mitch Marner était dans un environnement où visiblement, il était pas heureux. Ça jouait sur son attitude, ça en faisait un joueur détestable. Puis ça en faisait un joueur qui, visiblement, à un moment donné, se pognait le cul à deux mains. Fait que, tu sais, tu peux, dans un contexte comme le Canadien de Montréal, dans un contexte comme des équipes qui performent présentement, ça serait impensable de voir un gars se présenter de cette façon-là. À Toronto, un moment donné, tu sais, quand ça va pas bien au bureau, la morosité déteint sur tout le monde, là, puis même le plus jovial de tes collègues de travail, à un moment donné, il vient qu'il rentre la tête entre les deux jambes parce que c'est l'ambiance qui règne dans la place.
Ouais.
Mais Toronto, c'est lourd, ça va toujours être lourd. Et même là, avec John Chayka, ça va être lourd. Même avec le prochain coach, ça va être lourd.
Ben,
tu sais,
oui.
Là, il y a des rumeurs qui disent que Jared Bednar quitterait Colorado de son plein gré et qu'il y aurait probablement Edmonton ou encore Toronto sur le radar.
Oh, tu sais, bonne chance.
Écoute, je sais pas.
Ouais.
Je sais vraiment pas. T'sais, de un, va falloir. Je pense que tout le monde est en attente de voir si Vegas, un moment donné, vont lever la barrière pour Bruce Cassidy pour faire en sorte que le gars puisse travailler parce que ça fait aucun maudit bon sens que Cassidy vit présentement. Tu sais, ça va bouger dans les prochaines semaines, assurément, mais oui, cette pointe-là, elle était méritée. Ça m'a surpris un peu, mais c'est correct. C'est correct dans la mesure où j'ai l'impression que si la transaction dont on parle était Matthew Nyes avec à l'époque Brad Treliving, de se permettre de faire une petite pointe comme ça à Toronto présentement à Chayka, je pense que les livres sont fermés pour Matthew Nyes qu'on a viré l'attention vers quelqu'un d'autre. T'sais, est-ce que Nyes va bouger de Toronto peut-être pour aller ailleurs? J'ai hâte de voir, mais honnêtement, ça va être spécial. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce point de presse-là, c'est Jeff Gorton qui a parlé de la série contre les Hurricanes. Il a été très honnête.
Ouais.
Il dit, on était très bon dans ronde numéro 1, très bon dans ronde numéro 2, pas assez dans ronde numéro 3. Faut qu'on travaille là-dessus. On a des choses à adresser.
Ouais. Puis tu sais, il a dit, les Hurricanes, physiquement, ils étaient meilleurs que nous. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que tu regardes sur papier, puis la formation des Hurricanes, tu t'attends pas à ce qu'ils soient super robustes, puis que ce n'est pas nécessairement des toughs ici et ça, mais dans l'identité de l'équipe, dans la façon dont ils jouent au hockey, ben, ils ont été capables de s'imposer physiquement sur le Canadien. Puis ça, c'est une des leçons que l'équipe va devoir tirer. Puis ça, ça a été un des thèmes récurrents du bilan. C'est que cette expérience-là d'être allé jusqu'en finale de l'Est, même si on ne s'attendait pas à ça, mais d'avoir atteint le carré d'as, ben, c'est super riche et les joueurs vont pouvoir apprendre de ça. Tout le monde va en sortir gagnant d'être allé aussi loin. Puis de même si ça finit avec un goût super amer, ben au moins tu t'es rendu là puis tu as vécu cette expérience-là de se rendre en finale de l'Est.
Ouais, vraiment. On va aller à la pause une première fois de l'autre côté. Les joueurs vont commencer à défiler au podium. Évidemment, aujourd'hui, c'est un show un peu spécial dans la mesure où on est en mode bilan. C'est normal. La saison du Canadien s'est terminée vendredi. Et on va suivre ça avec vous autres aujourd'hui. Et c'est un plaisir de vous accompagner dans ce bilan-là toute la journée. Lara Gonzalez s'amène également à compter de 11h. Soyez là, manquez pas le tailgate avec Greg Langlois à compter de 13h54. On poursuit 100% à max. Les joueurs du Canadien au podium. Après le show de Luke Combs, de l'autre côté, bougez pas.
100% sport. Tout de suite après 100% max, tes deux chums de la radio débarquent luncher avec toi, Georges et Gonzo. Manque pas une minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% sport, plus de fun.
Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs.
Envie d'une sortie golf parfaite cet été? Golf Le Versant. Forfait golf et gastronomie. 9 trous exécutifs avec voiturette GPS à partir de 90$. Golf Le Versant, jouez plus grand.
Pour tous vos besoins d'entretien et d'hygiène professionnelle, pensez Sani Dépôt. Du bureau à l'usine, produits d'entretien, désinfection, papier, savon, équipement spécialisé et plus encore au meilleur prix. Ouvert au public avec maintenant 6 localisations pour vous servir. SaniDépôt.com.
Manque encore la feuille de temps de Maxime. Jonathan a écrit 40 heures, puis avait un férié. Les erreurs, les feuilles de temps perdues, les bouts de papier qui s'accumulent, ça vous dit quelque chose? Tu veux que ça change? Utilise Mobile Punch, l'application québécoise qui fête ses 10 ans cette année. Plus de 40 000 utilisateurs.
Le peuple! Votre nouvelle tradition de jour de match est arrivée, la slush BPM. Disponible gratuitement tous les jours de match dans les 45 succursales Shop Santé à travers le Québec. Demandez la slush BPM chez Shop Santé.
Certaines conditions s'appliquent.
Chez McDo, savourez un café glacé ou une boisson de fontaine petit format à seulement 1$ plus taxe chacun. Puis c'est pas juste une promo qui dure une couple de jours, c'est tout l'été, seulement chez McDo.
Ne s'applique pas au café glacé aromatisé ni au café nuage glacé. Dans les McDo du Canada participants, taxe en suit, les prix ne s'appliquent pas à la livraison.
Le groupe H. Grégoire, c'est maintenant votre destination pour votre prochain véhicule neuf.
Mitsubishi, Kia, Hyundai, Infiniti, Nissan, Toyota et Honda, on les a tous.
Passez dès maintenant chez votre H. Grégoire le plus près. Votre prochain véhicule neuf, c'est nous qui l'avons.
Ce vendredi, les maîtres de l'univers débarquent.
Le glaive, il me quittera pour rentrer chez moi.
Mettez de l'action dans votre été.
Accroche-toi, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive.
Voyez l'ascension.
Prenez le glaive.
Tu les protégerais
de Musclor.
Je détiens la force toute puissante.
Qu'est-ce que ça fait d'être un puissant guerrier?
Vraiment bien.
Ne manquez pas les maîtres de l'univers. Seulement au cinéma dès vendredi.
100% max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% max.
On rejoint un Brendan Gallagher très émotif.
I was just thinking about how the teammates supported me through that. And... Oh, God. Sorry. I still get emotional talking about her, but, you know, that's still just something that always will stick with me. Just give me a second here, guys.
Mm-hmm. Yeah, that's okay, of course.
Alors, écoutez, bref, avec...
Brendan Gallagher, très, très émotif. N'en aura pas donné longtemps aux médias. On peut comprendre la situation difficile que vit Brendan Gallagher présentement. Il le sait là, que c'est terminé avec le Canadien de Montréal. Il a demandé aux représentants des médias de lui accorder un moment. Là, c'est à voir si Brendan va revenir au micro, mais je pense qu'il a besoin d'un moment pour... se ressaisir dans la mesure où, évidemment, on a abordé son futur à Montréal. Il le sait très bien, il connaît la situation. C'est un gars qui est en pleine conscience de où l'équipe s'en va, qui aura rendu de fiers services aux Canadiens de Montréal. Depuis 2012-2013, Brendan Gallagher, c'est 911 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Il est c'est énorme.
Il est de retour, Max.
Il est de retour. On l'écoute.
Talk about sometimes, but, yeah, the way, you know, I went through some... some pretty tough times, and you know, the way the guys you know, kind of came behind me and rallied behind me last year, really, honestly, it's one of the proudest moments I've had. She was so proud to see me be a Montreal Canadian, and no, it was yeah, I mean, and that's just part of it. The teammates I've had throughout the years, the incredible love for the city is something that you know, I'll always have with me, and I'm very fortunate to have.
Brendan, what would you like to say to Canadians fans?
Just thank you. You know, honestly, they've just embraced what I am as a player. They've you know, they appreciated me. You know, I just tried to, you know, give them everything I had every single night, and they really embraced me and supported me along the way. So it's just, you know, like I said, an experience that you know, I'm very happy I got to go through.
Do you still want to play, man?
No, of course I'm going to keep playing. You know, there's more in the tank, obviously. You know, I would have loved for it to be here. It's just one of those situations where, you know, yeah, I guess my time has come, and they've moved on. And for me as a player, I'm looking forward to, you know, to kind of getting back to what I do.
How was it difficult for Brendan as a veteran, also as a proud member of this team for so long, to, yeah, have to sit out the couple last rounds here?
Yeah, of course. Yeah, no, that's hard. I felt like I could have helped. Unfortunately, just didn't get that opportunity. I thought the guys, they battled and they did everything they possibly could. I just felt like, you know, hadn't given the opportunity, I could have helped them out.
Brendan, you're under contract for one more year. You spent your entire career, from even before you were drafted, proving people wrong. A lot of people think, okay, you got one more year left. How much more do you think is in your tank?
I mean, I can keep playing. Honestly, the way I feel, you know, I just know it's not done. You know, you never know how many years, but I have plenty more to give. I just feel like, you know, around here, you know, the opportunity is just not going to be there. So for me, I just need to find a new home, and you know, do what I do as a player. But I can certainly keep playing. There's tons more to give, and yeah, I'm looking forward to that as well.
Brendan, we saw you down by the bench at the end of the last game with your hoodie on. And how important was it for you to be there?
Yeah, I mean, I obviously, kind of knew the season was ending, and that was going to be it for me here. And I just kind of wanted to take a second to, you know, look back and, you know, for myself, you know, kind of be proud of what I did here, and you know, look around. Obviously, would have loved to have been on the ice with the guys, but you just try to feel that with them, and yeah, be sure to thank them along the way. Unbelievable. This is a really good group, you guys. This is a group that really cares about each other, obviously. You know, they've been together for a long time. They're going to keep working at it, and I wish them nothing but the best. And you know, you go through as much as we have, you're going to be bonded for life, and I'm certainly very very proud to watch them.
As you said, you could have helped. There are probably a lot of people in this scrum who thought that when the team was down 3-1, that was the time for a change. How surprised were you, if at all, that you didn't dress for that fifth game?
Yeah, I mean, I thought I'd be in there. You know, I was actually looking forward to the opportunity to try to pull guys into the fight. You know, I thought that's something that that I'll never lose, and something I do well. You know, I'm sure I would have been able to, but it's just, you know, wasn't given the opportunity, and that's fine. It's I've had to had to accept this fate here for a little while, and you know, like I said, looking forward to a new challenge. But the bond you have with these guys is never going anywhere, and you know, I am proud of the effort that they put forward.
When did you realize that your time was done here?
I mean, you kind of tell. There were glimpses. You know, it's obviously near the end of the year when you're getting pulled out of the lineup, and then you know, when there were big opportunities, you know, it just seemed they looked other ways. So, you know, obviously that's coach's decision. That's within his job title. And for me as a player, you know, when your number's called to be ready, if it's not called, you know, it's probably time to move on.
Did Marty get cancer or anybody?
Brendan just said that he's going to treat you with the respect that you've obviously earned and deserved. So is it fair to assume that this is your decision, that you would like to move on and get an opportunity?
Yeah, I mean, I guess it goes both ways. It is obviously my decision, but you're kind of forced into it. You know, I would love to stay here and love to
be a part of this group. But for me, I mean, you have to give yourself an opportunity as a player to, you know, to contribute. And, you know, just the situation where it is now, you could, you know, it's not going to change, right? So, you know, you just kind of accept it for what it is, and you know, you deal with it. I've been around here long enough. I've seen it happen to other players, and guys go on and you know, finish their careers elsewhere. But for me, like I said, Montreal is always, you know, it's going to be home, and you know, I don't want it to be lost on anyone how fortunate I feel to have the opportunity to play here as long as I have. Sorry?
How would you feel about the opportunity to go home?
Oh, yeah, I mean, that's obviously, you know, that's an opportunity that's there. If it is, I haven't had an opportunity really with my agent to sit down. And, you know, I'm sure there'll be a couple places. You sit down with my wife and then figure out what's best for our family, and then you go forward. But certainly, you know, it's Vancouver would be a great place.
Is there anyone in that stretch you can rely on when it comes to maybe former teammates or just, you know, that you mentioned that some players have been through that?
Yeah, I mean, I live with Josh Georgios, and if you remember, kind of similar with Georgie. Yeah. I saw him go through it, and it's hard because you're you know, I remember how he felt. It's similar to how I'm feeling. You know, it's not your choice, but it's in the end, it's what you have to do for yourself as a player. And you know, I just got to pick what's best for me now and take care of myself. But you know, it's part of the business of it. And as a player, you deal with it.
Did Marty or Kent talk to you before Game 5 and explain why they didn't put you in?
Yeah, I had phone calls with Kent. I had some meetings with Marty. I think. Not specifically, but it's yeah, it's just, you know, it's their decision. I don't know if there's really any justification for it. It's just one of those things where decisions were made. And, unfortunately, we all have to deal with the consequences.
Brendan, there are many memories, I suppose, throughout your career, but is there one that stands out well?
Yeah. Well, I tried to talk about it earlier, and then I started crying, so I'll try not to. Honestly, when you know what I went through last year, it was just a world of emotions, and I don't know how I would have been able to play hockey without this group. So it's just something that I'm always going to look back on and, you know, remember fondly. I mean, on the ice, there's certain moments, but, you know, that's just something where, you know, I can't describe how much that just meant to me as a person.
Thanks.
Thank you.
Yes. Appreciate it.
Alors voilà, c'était Brendan Gallagher dans l'essentiel de ses propos. Ben, c'est terminé à Montréal pour Brendan Gallagher. Il le sait, il le dit. Je veux remercier les gars de m'avoir supporté dans le temps où j'ai regardé le match dans les estrades. Et dit-il, quand t'es un joueur, ben quand ton numéro est appelé, faut que tu sois prêt à jouer. Si ton numéro est pas appelé, ça fait partie de la game. Et là, il reçoit des accolades et des poignées de main de tous les journalistes de la colonie artistique. C'est vraiment beau à voir le respect qui lui est témoigné. Il dit, ce n'est pas terminé pour moi. Je veux jouer encore. Je n'ai pas le nombre d'années, mais je désire encore jouer au hockey professionnel. Je sais pas combien il m'en reste. Il dit, but I have to find a new home. J'aurais besoin de trouver une nouvelle place, une nouvelle maison. Je vais m'asseoir avec ma femme et on va regarder les destinations qui sont possibles. Il dit, je suis très, très fier de ce que j'ai accompli ici. Alors, c'est clair.
Très touchant, le point de presse de Brendan Gallagher. Il est venu émotif. Quand ils ont commencé à lui parler un petit peu de... Quand Brendan a commencé à parler de ce qui s'est passé l'an dernier avec le décès de sa mère, évidemment, qui était très fier de voir Gallagher porter le chandail du Canadien et vraiment reconnaissant du support de ses coéquipiers. À travers des moments difficiles comme ça, évidemment, de perdre un parent, ben, ses coéquipiers ont été là avec lui tout le long et c'est à ce moment-là qu'il est devenu émotif. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est quand il parlait du fait que quand le Canadien tirait de l'arrière 3-1, perdait face aux Hurricanes de la Caroline, ben lui, il croyait être capable de venir dans le match 5 et d'être la bougie d'allumage, d'aider les gars à passer au travers de cette bataille-là. Il sentait qu'il était capable de jouer. Il espérait même rentrer. Il pensait jouer. Sauf que finalement, ben on le sait, il a pas joué. Quand même déçu de ça, Gallagher. Honnêtement, j'aurais aimé ça le voir vendredi. Là. Il est trop tard, trois jours plus tard. Mais sérieux, entre avoir Gallagher et Kirby Dach, là, pour moi, c'est même pas proche qui t'apporte le plus de cœur dans un match comme ça.
Dans la situation du match numéro 5 où tu fais face à l'élimination, c'est même pas proche. Ouais. Puis tu sais, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que là, il a commencé à cheminer dans sa tête, le chemin est fait. Dans la mesure où il n'y a pas de « we'll see what ». Non, il n'y a pas de « we'll see », c'est c'est terminé. Ce club-là bouge vers l'avant. Puis il l'a même dit, il dit, quand t'es dans un moment aussi crucial de ta saison et que t'es pas en uniforme, ça veut dire que l'équipe a d'autres plans et que l'équipe s'en va ailleurs. Puis ça, je me dois de respecter ça de Kent Hughes et de Jeff Gorton. J'ai très, très hâte de voir où, comment et quand pour Brandon Gallagher. T'sais, les options sont peu nombreuses parce que c'est un contrat qui est lourd, Brandon Gallagher, dans le contexte actuel, pour ce qu'il peut te donner. Il y a des destinations de choix. C'est un gars qui est né à Edmonton, qui a grandi à Vancouver, qui a joué pour les Giants de Vancouver dans la WHL. Les Canucks ont de la place. C'est pas une destination ultra sexy présentement, non. Les Canucks. Ce serait dommage de finir ta carrière-là, sauf que Gallagher aura pas nécessairement le choix comme une méga vedette actuellement.
Il a quand même parlé que ce serait cool pour lui de rentrer jouer à la maison. Je crois que son père habite encore là-bas. Évidemment, il y a de la famille là-bas. Donc, il a dit qu'il va en parler avec son agent au courant des prochains jours pour voir un petit peu c'est quoi les options qui sont là pour lui. Puis, bon, il s'est fait poser une question sur Vancouver. Il a dit que c'était bien. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a demandé à quel moment est-ce que tu as vraiment senti que c'était la fin pour toi avec le Canadien. Puis, il a dit qu'il voyait venir. Là. Évidemment, il n'est pas blindsidé par tout ça.
Ben non.
La fin de la saison régulière, quand il voyait qu'il commençait à être retiré de la formation sur une façon de façon régulière, ben Gallagher, c'est un vétéran. Il y en a vu d'autres, notamment il a parlé de Josh Georges avec qui il a habité au début de son passage avec le Canadien, qui a vécu une situation un petit peu similaire. Quand t'es un vétéran et tu le vois que lentement ta place dans l'alignement est un peu moins assurée, puis tu sautes de plus en plus ton tour, ben tu fais 1+1 et tu te dis que bon, ils veulent peut-être plus de moi nécessairement. Mais ça va être ça va être quelque chose quand même quand Gallagher jouera plus pour le Canadien, de le voir évoluer
dans un autre chandail. Peut-être que ça va lui apporter un nouveau souffle, un nouveau rôle, une nouvelle façon. De Brandon Gallagher, on retourne au podium. Qui est le prochain?
C'est Noah Dobson qui est au podium en ce moment.
Noah Dobson est là.
But you know, the later it went on, the more normal I felt. So I was just happy to be back for the guys.
Did you have a procedure for your injury at the end of the season?
Yeah.
We just saw Brendan Gallagher break down in tears here, talking about how he played his last game. We were here 1 year. Just what did you take away from Brendan Gallagher?
Yeah. You know, there's not enough words you can say what he's kind of meant to the organization and just the. You know, what I can take away from the one season, just the teammate and the player and the competitiveness. And, you know, it was really awesome to, you know, I've played against him from afar and always a guy that was annoying to play against. He's always in front of the net. And to now to get to know him as a guy and be his teammate was awesome and really enjoyed it.
Now that you've had one season here in this supposed mecca of hockey, what's your thought about how it went?
Yeah, no, obviously it was it's a long season. When you play as late as we did, there's always the ups and downs, but you know, as a whole I feel like it was a positive year. Really enjoyed becoming part of this group. Felt like I fit in right away. It's such a fun group of guys to be around, and just an organization as a whole was awesome to me. So I'm really happy to be here for foreseeable future, and excited to get to work and get ready for next season.
Any team that makes it to the Final Four is close, but how far away do you think you are from a championship?
You never know. You know, I feel like we were a team that was capable of going to a cup final this year. So what you can do is you take those experiences and you learn from things you did well, things that you can be better at, and as a group you stay hungry and get to work, because you know, just because you have a great season and get to this point, it's only going to get harder from here, you know. So you know, as a group there's lots of positives, and we feel like if we put in the work we can be right back there next year.
Kent and Jeff Gorton said a few minutes ago that there's going to be learning, especially the way that you guys defend as a team. Do you think that it's the case too?
Yeah,
especially after the series against Carolina.
Yeah, I mean, I think we've shown we obviously can defend with the best of them when we're on top of the game, and obviously when things get a little loose, you know, holes open up. So I feel like you know, the best experience you can get and learn from is what we just went through, and to be down to three teams left and be playing the teams that we did. You know, if you look at the teams we play, three of the top five teams and the standings in the league. So I feel like we can take a lot from that, learn from that, and be better for it. And I know as a group we're super hungry and still disappointed about the results, so I'm sure guys will be hungry to put in the work and get ready for a big year next year.
What's your takeaway of the loss to Carolina specifically? I mean, just overall, what did you take from that series?
Yeah, I think obviously they were a tough test. You know, we obviously got off to a great start in game one, was able to take advantage of them on their layoff, and then you know, you lose two overtime games. You know, if bounce goes here or there, it could be a different series. But you know, they were the better team for the majority of the series. They didn't give us much. It was hard to generate anything. And you know, like I said, it can be a learning experience for the group to know what it's going to take to get over that next step and the type of game we're going to need to be able to play. And yeah, so I feel like as a group we'll learn from it and be better for it.
So what do you think you have to do to take that next step?
I think we got to continue to just get better in all areas. You know, at this time of year, every team is good offensively, good defensively, and you know, it's the details of the game usually make the big difference. And you know, we could have done a better job of, I feel like we didn't get to our game. We were, they were dictating the play a lot, and that was a big thing for the series. We weren't able to generate much, so, you know, it's something we can, like I said, there's lots you can learn, not just one thing, and as a whole to be better.
You feel like you learned a lot about how physically and mentally it's draining to go that far?
Yeah, you know, when you go on these playoff runs, it's taxing. You know, everyone's physically, but mentally too. Just the high pressure situations, the amount of overtime games, stuff like that. I feel like the group has a good sense now of what it takes when you play this long, late into the season. Just mentally and physically, what you got to be prepared for and be able to handle.
How old do you analyze your season personally? Was it the best version of yourself?
You know, I feel like at times I was. I still feel like, you know, there's things that I can be better at. And, you know, as a player, in the off season, you never like to lose. But, you know, as a player, you analyze your whole season, find things that you can do better, what you did good. You know, for me, I'm always going to be trying each day to get better and improve my game. And come into next season hungry and want to take another step and just help the team in any way I can to have success and win hockey games.
Have a good summer.
Yeah.
Alors voilà Noah Dobson qui revient évidemment sur sa première année avec le Canadien Montréal. Il a parlé du support des partisans, McCaw Hockey, on lui a posé la question, a parlé du groupe de joueurs. Lui aussi, la même chose, c'est très très conscient de la position en défensive dans laquelle le club se trouve. Ah, et d'ailleurs, on a plus de pause publicitaire jusqu'à la fin de l'émission. Là, on fait l'ensemble jusqu'à la fin du point de presse des joueurs. On trouvait ça important de vous les présenter en intégralité. Ça me fait toujours rire, moi, à la fin des matchs, des fois quand t'entends, mettons, un point de presse à la radio, ben après ça, on est rendu dans la moitié du point de presse, coupe, ça revient en studio. On peut-tu le finir? Les joueurs sont encore là. Ils ont des choses à dire. C'est eux qu'on veut entendre. Et Dobson a été très clair dans ce que le Canadien a besoin. Je pense qu'il a apprécié son année. Il a aussi une bonne lecture, je pense, de la série contre les Hurricanes de la Caroline. On s'est fait mettre dans le visage à certains niveaux. Il a confirmé qu'il a été opéré au pouce à la main, justement, que de match en match, il se sentait de mieux en mieux. Fait que c'est l'essentiel de ce qu'on a appris de Noah Dobson.
Exactement. Il a mentionné que ça a été une année super positive pour lui. Sa première avec le Canadien, il est content d'être à Montréal. C'est un beau groupe. Puis il sentait que c'était une équipe qui était capable d'aller en finale. Donc là, la clé, c'est de rester affamé, de continuer à mettre les bouchées doubles, de continuer à travailler, de rien prendre pour acquis, parce qu'il dit que quand tu arrives à ce stade-ci de la saison, toutes les équipes sont bonnes. Tout le monde a des bonnes attaques, tout le monde a des bonnes défenses, tout le monde est efficace dans les facettes du jeu. Alors, il faut rester affamé, il faut continuer à travailler. Puis, en tout cas, j'espère que ça va être la mentalité en général des joueurs du Canadien pendant cette saison morte, là, parce que tu peux pas prendre pour acquis ce que tu viens d'accomplir. Ça se peut que tu retournes pas en finale de l'Est avant 2-3 ans encore. Alors, il faut que tu continues à travailler et que tu continues de t'améliorer.
Oui, parce que les autres clubs, eux, vont continuer à le faire également. Oui. Puis là, c'est le concours de qui va être meilleur, qui va être la meilleure version l'an prochain, tu sais, à Buffalo. Là, c'est la nouvelle administration qui va prendre les rênes cet été, dans le fond, dans cette saison morte-là. Ce sera plus le travail de Kevin Adams. Ça va être le travail de Kekalainen, de Bergevin, de ceux qui sont en place maintenant. Il y a d'autres équipes qu'on va surveiller. Boston resteront pas les bras croisés cet été non plus. Tu sais, il y a beaucoup de clubs qui, l'an prochain, vont sortir des blocs très, très forts. Je pense que là, le portrait se dessine pour le Canadien de Montréal, mais pour revenir à Noah Dobson, appréciation générale de sa saison, je pense qu'on en a eu pour notre argent.
Oui, ah, absolument, ça a été toute une acquisition. Et d'un défenseur à un autre, on passe à Lane Hutson qui s'adresse aux médias.
First NHL point, and he kind of told me to go first in the line, so it was pretty cool. But yeah, such a pro, good guy to be around, great, you know, great leader, and yeah, he's just been so good to me.
How are you health-wise?
I'm good. Yeah.
What did the Hurricanes teach you guys about what you need to improve on or do better moving forward to get past them or other teams like that in the playoffs?
Yeah, I mean, there were just kind of little errors here and there. A lot of stuff that we could take care of on our end that we didn't, but I think just, having more desperation, playing, you know, elevating even more from, you know, other rounds. We didn't really reach another level. We kind of stayed the same. So maybe just, you know, lack of elevating when the games got more intense.
Lane, where do you feel you are personally as a player and your team is at if you compare it to a year ago at this time when you just finished a series against the Capitals? Where are the biggest sort of gains you feel you've made and the team has made?
Yeah, I mean, I think as a team we took so many strides all year, but just feeling comfortable in those playoff situations, really just battling it out, all that stuff. We felt more connected, played some really good hockey in playoffs and had some not so great games, but it's learning lessons. For myself, I felt like as the team got more comfortable, I got more comfortable and felt confident in situations in playoffs compared to last year where kind of, felt like it hit me pretty quick that it's a completely different game.
Lane, when you look at your performance last year and certainly this year, you could look back on the whole situation you were in at the beginning of the season and say, man, there's a few more dollars that could have been coming my way on this contract that I decided to sign. But having gone through the playoffs and gotten as close as you guys did, even if you remain a little far away, how much does it justify in your mind the decision you made so that you guys can have the type of team that will eventually win?
Yeah, I mean, I wouldn't change a thing, honestly. So fortunate that I was able to, lock that up for a long time and be here and, to be that close and that far at the same time, it's a great thing and, makes me more hungry and everyone just a bit hungrier to get back there and prove ourselves.
When you say that you, as a team, you did not elevate enough, is that your read also from the first two rounds?
No, I mean, I feel like we matched, what was coming our way. We played some really good hockey. They both went seven, and I feel like, either one of them could have ended in, six if we, just a closing out series is part of it too, and that's something we got to get better at, but I feel like we played good enough in both those.
Did you feel more confident this season? You seem to be taking a lot more shots this year than last year. What changed?
Yeah, I think I feel more comfortable just shooting the puck. Try to work on it pretty often, and, still got a lot of work to do in that.
What's your understanding of the difference between regular season hockey and playoff hockey?
Playoff hockey is just so intense, so much pace. Guys are hitting everything, and then regular season, you just try to play into the structure that you have and find different ways to win because it's such a long season.
You always like to say more hockey, you love more hockey. Will you actually take a few days now off the ice?
Maybe a little bit, and then reevaluate pretty soon, and then hopefully get back out soon.
Well, after the summer, is your mind, like last summer with the contract on your wing, is it going to be a much, enjoyable is the right word, but would your summer be more relaxing maybe, not having that back in the wing?
I mean, it's hard to enjoy it when we aren't still playing, but once we get past the finals, maybe try to enjoy getting ready for the year.
Jeff said that to go forward as a team, you have to get better defensively as a team, again, not you personally, but what do you feel you can do better as defensive core and as a 20-player group to improve defensively and the defensive side of the club?
Yeah, I think part of it's mentality, just killing more plays for everyone. Playing with the puck more, the more we play with it, we don't have to defend. And it's all kind of simple stuff, but it's cumulative of doing everything really well all the time.
When you talked about how much Ivan is an important part of the future and how bright it is for him, what have you learned about him in terms of being a teammate and embracing the team culture and just all the things that make a team be able to win, all the stuff that you've kind of embraced?
Yeah, I mean, it's hard to, say a couple of things, but he really cares about winning. We talk about it all the time. He doesn't really get to show it as much in the locker room yet because he, is a little quiet sometimes, but he's all about the team, tries to take care of everything he can and wants to do everything just to help us win. So it's fun to be around and, fun to play with.
Lane, I know you said it right after the game. Could you clarify kind of what you said in terms of we're still far away? What did you mean by that right after the game?
Yeah, I didn't necessarily mean in terms of, the way we play. We didn't play great in those situations, but I meant more of, the journey itself. Like, you got to win, 5 more games or whatever, so, or yeah, 7 more games. So it's, that's how far off we are, and it felt like we were right there, so.
Brandon has told us he won't be back. What has he meant to this team? What has he meant to you?
Yeah, I mean, since I came into the league, he's taken care of me. Such a great teammate. Just enjoy my time with him, like everyone. So, going to be missed for sure.
When you say took care of you, what are some of the things that he might have done?
I said it earlier, but my first game, it was pretty funny. I got an assist, a point on his goal, and he told me to lead the line. So it was something I won't forget. It was pretty cool of him.
Like, how was your relationship? Was probably in your personality, but you were really hard on yourself, especially during this series. Is there a learning for you in that specific things?
I don't know if I'm necessarily going to change. I feel like that's something that I pride myself in, being really good for my teammates and trying to help us win. So, I enjoy battling it out, and struggles happen. You got to get through it, and honestly, just got to be a bit better and help the team.
How has your relationship with Demita developed as his English came along?
Yeah, I mean, his English has always been pretty good, but we like to have some fun, joke around with each other. He's just such a good teammate, great friend of mine. So it's nice to have him here.
What makes you most excited about this team now moving forward?
Yeah, I think just the pieces we have here, how well everyone gels together, and how much fun we have winning with each other. So, winning with this group's a lot of fun, and I look forward to doing more of it.
Did you tell Ivan to get the contract extension out of the week before the season starts?
We'll see, but yeah, I don't know. We've talked about it, but we'll see.
You personally have some life-changing money coming your way next season. How do you wrap your head around how your life's going to change from that standpoint?
Yeah, I mean, I just try to be myself every day. Try not to think about it. Obviously, fortunate to be taken care of and all that stuff, but now I got to pay it back to the organization and my teammates.
There's no perfect world in this game. You change a lot, but as a guy like Makar, would you like to build a strong relationship with a partner for years? You switch a lot over the last 2 years. Do you think that it's part of the thing that you would like to have in the future?
I think I'm good with whatever we need to win. There's so many great defensemen on this team. could play with any of them, so doesn't change the way I approach the game. It just kind of excites me because, you know, sometimes you got to adjust a little bit, and it's exciting, honestly.
The focus is always on Marty St. Louis, but what can you say about Stefan Robida and the job he's done with you and this defense corps?
Yeah, Robida does so much for RD. Brings a calming mindset, just kind of lets us play and inserts himself when he needs to, but having him, put trust in RD and myself, it means a ton, and, you know, very thankful that he's helping us out.
Would you label this team as contenders at this point? And if not, what's the missing piece to get there?
I think the missing piece is just winning more games, but I wouldn't put a label on anything. We just got to keep earning it and keep grinding it out and do it all again.
Obviously, it was a tough situation with Brendan, with management, and you spoke about it earlier. What can you say about camp, just from a human standpoint? I mean, you dealt with the contract and the tough decisions with Brendan, and just how he sort of handles difficult situations with this team.
Yeah, I mean, he's really good at what he does, professional. Also, just, you know, good guy. He understands what, you know, everyone goes through. Tries to kind of understand on a human level what, you know, each and every one of us is going through, and it's easy to work with and easy to get behind what he's saying. So it's sometimes it's a tough part of the business, but he's pretty good at it.
I think everybody tries to find an edge through the summer. What will you be working on?
Yeah, a little bit of everything. Keep shooting, keep working on skating, make sure I'm ready to go.
And his plans, the social plans, or something, parking lot?
No plans.
Alors voilà, c'était Alain Hudson. L'essentiel des propos, ben ce gars-là, c'est le coéquipier ultime.
Il est incroyable.
Il a encensé à peu près tous ses coéquipiers. On lui a posé une très bonne question sur est-ce que t'aimerais développer une relation avec un partenaire à la défense, un peu comme Cale Makar avec Devin Taves. Puis il a dit, moi, je suis prêt à jouer avec n'importe qui ça prend pour gagner, peu importe qui on va mettre à mes côtés. Je sais que je me suis promené beaucoup, mais il y a beaucoup de très bons défenseurs sur cette équipe-là. Il dit, ça me dérange pas, je veux juste que l'équipe gagne. On lui a posé une question sur son contrat, à savoir, t'as signé un long contrat. As-tu l'impression, avec la saison que tu viens d'avoir, que t'as laissé des dollars sur la table, que t'as laissé des sous sur la table et que t'aurais pu aller en chercher plus? Il a contourné la réponse en disant « Je suis vraiment juste privilégié d'avoir ce contrat-là, de pouvoir le faire, de pouvoir le vivre à Montréal. Je suis redevable à l'organisation, je suis redevable à mes coéquipiers. » On lui a reposé une question sur son contrat en lui disant « À partir de l'an prochain, ton 8 millions par année va embarquer, tu vas avoir beaucoup d'argent dans tes poches, est-ce que ça va changer ta vie? » Il a dit « Je vais juste essayer de rester moi-même en gros. » Puis il dit, tu sais, je suis redevable à l'organisation, je suis redevable justement à mes coéquipiers. Il a parlé aussi en début d'intervention du fait qu'ils n'ont pas été capables de s'élever. Il dit, la première ronde à la deuxième ronde, on était meilleurs. En deuxième, on était meilleurs qu'en première et on a comme barré là. On n'a pas été capable de s'élever rendu là. Et il a dit, on était si proches, mais si loin en même temps. Les journalistes sont revenus là-dessus, puis il a dit, si loin en termes de nombre de matchs que tu as à gagner, le nombre de matchs que tu as à gagner pour te rendre au bout de cette affaire-là. Fait qu'en gros, Lane Hudson a encensé tout le monde. Je pense qu'il y a encore un goût amer de la façon dont les choses se sont terminées. Tu le sens, le gars, c'est un compétiteur. Il veut une chose, jouer au hockey. Là, il s'en va dans sa pire période de l'année parce qu'il jouera pas de match de hockey. Mais il va encore patiner 5-6 jours par semaine, assurément, se garder en forme. Tu sais, d'avoir un gars comme ça à Montréal dans ton écurie, c'est tellement sécurisant pour les prochaines années, mais moi, à la question, voudrais-tu un partenaire? Moi, j'aimerais ça répondre oui. Est-ce qu'on peut lui trouver?
Il en mérite un.
Est-ce qu'on peut lui trouver son Devin Taves ou est-ce qu'on peut lui trouver justement son Brock Faber?
Puis tu sais, c'est la solution, elle est peut-être à l'interne, mais je pense que pour le bien de Lane Hudson, puis déjà, c'est un des 5-10 meilleurs défenseurs de toute la ligue, mais vraiment pour qu'il prenne le pas de plus. Puis pour que dans les séries aussi, ce soit la même chose, pour que ben s'il se fait frapper ou peu importe, qu'il y a quelqu'un de solide à côté de lui, faudrait y trouver son partenaire, un gars avec lequel il va pouvoir jouer pendant 82 matchs, parce qu'on s'entend, jouer avec Jaden Struble, c'est pas la même chose que jouer avec Noah Dobson ou avec Caden Gooley. Fait que c'est pas facile pour les Nutsun de savoir exactement sur quel